Des sites lancent des informations frauduleuses qui sont reprises immédiatement par des milliers d'internautes. L'important pour beaucoup n'est pas de vérifier, mais l'important c'est d'être le premier à partager la nouvelle qui fera le plus de buzz. Le souci de vérité, de vérification, passe très loin derrière le souci de s'assurer une audience, d'avoir le plus grand nombre de likes et de followers, en bon français. Et c'est ainsi qu'au milieu de tout cela, une sorte de nébuleuse s'installe, une sorte d'entre-deux, où l'on sait que tout est mêlé entre informations sérieuses et grand n'importe quoi, entre vérité et mensonge. On oscille entre confiance et défiance, mais on entre dans le jeu malgré tout. Ce doux mélange permet aussi quelques libertés, affirmer sans justifier, jeter le soupçon sans prouver, produire des écrans de fumée là où ça peut servir, c'est juste un jeu, argueton, excuser un peu. Tant certains impacts de tout cela ne sont pas des jeux, on le sait. Certains disent que nous sommes passés à l'ère de la post-vérité, avec ce grand mélange de partout. On a même entendu qu'un mensonge politique qui contredisait de nombreuses données attestées que ce mensonge pouvait être qualifié, justifié comme étant un fait alternatif. Un mensonge complètement construit, sans rapport avec la réalité, qui est appelé, qui est crédité du statut de fait alternatif. Une contre-vérité totale et avérée qui revendique d'être un fait, mais d'un autre genre. On marche sur la tête. Dans cette logique, chacun peut dire ce qui l'arrange, même en toute mauvaise foi, et revendiquer cela comme un fait d'un autre genre. Jésus ici nous met en garde contre ceux qu'il appelle des pseudo-prophètes, qui prétendent parler de la part de Dieu, qui prétendent donner un enseignement selon Dieu, mais qui en fait n'ont rien à voir avec Dieu et conduisent très loin de ce qui est selon Dieu. Jésus vient d'inviter ses disciples à suivre le chemin qui mène à la vie, mais il a conscience que bien des personnes peuvent détourner de ce chemin, peuvent égarer loin de Dieu, tout en ayant des discours très bien ficelés, très séduisants, très policés. Que suppose donc ce langage de Jésus? Il suppose d'abord une complexité. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est la base, la référence. Mais cela va plus loin. Il y a aussi du vrai qui a l'apparence du faux. Le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Certains innocents ont des figures de coupables. Il y a aussi du faux qui a l'apparence du vrai. La contrefaçon en est la preuve. Certains mensonges semblent plus vrais que nature. Il y a du vrai qui essaye de se faire passer pour du faux. Je dis quelque chose, et dès que je l'ai dit, je relativise en disant « je rigole ». C'est-à-dire quelque chose de vrai, on l'a quand même dit. Et on fait comme si c'était un petit peu du faux. Et puis il y a du faux qui essaye de se faire passer pour vrai. C'est ce que Jésus dénonce ici. Et vous voyez, cette complexité, elle est là, elle est partout. Et Jésus nous invite à la vigilance. Et cette complexité demande de nous de la vigilance. Prenez garde, nous dit Jésus, prenez garde. Elle demande aussi que chacun exerce du discernement. Il s'agira de reconnaître ce qui est en chacun. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Mais ça demande du discernement. Complexité donc, dans tous ces mélanges entre le vrai, le faux, etc. Mais il y a une autre complexité, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre l'apparence et la réalité profonde. Jésus parle ici de personnes qui extérieurement semblent douces, semblent inoffensives, comme des brebis. C'est ainsi qu'ils viennent, c'est ainsi qu'ils se présentent, c'est ainsi qu'ils sont habillés, revêtus, dit Jésus, revêtus comme des brebis. Pourtant, à l'intérieur, c'est tout le contraire. Quand on creuse derrière l'apparence, ce sont des loups, et même des loups ravisseurs qui veulent faire de nous leur proie. Leur réalité profonde, leurs intentions ne correspondent pas du tout à ce dont ils se parent extérieurement. Autre complexité. Et pourtant, face à tout cela, il y a quand même une norme. Il y a quand même une norme. Jésus parle de gens qui sont des faux prophètes. Cela suppose qu'il existe une norme de vérité qui permet de reconnaître quelqu'un justement comme un faux prophète, comme un pseudo-prophète, comme quelqu'un qui prétend faire quelque chose qu'il ne fait pas, comme quelqu'un qui s'écarte de la vérité, comme quelqu'un qui la falsifie. C'est peut-être complexe, c'est peut-être dur à décrypter, il faudra peut-être du temps, il faudra peut-être du discernement, mais au bout du compte, on peut quand même, on doit quand même faire la différence entre le vrai et le faux, entre la paille et le bon grain. Il faut tendre à cela. Il faut faire tous ces efforts dans ce sens. Pour Jésus, ces faux prophètes n'énoncent pas une vérité alternative, n'énoncent pas des faits alternatifs d'un autre ordre lorsqu'ils s'opposent à la parole de Dieu ou lorsqu'ils la dévoient. Ils sont de faux. Il faut les démasquer comme tels. Pourquoi cette vigilance? C'est que nous avons besoin de quelque chose de solide pour fonder notre vie. On ne peut pas s'appuyer sur du mensonge ou sur de l'imaginaire ou sur du vent pour fonder vraiment notre existence. Et Jésus nous invite ici à tester, à bien tester nos appuis, à bien vérifier nos fondements. Il nous demande aussi de ne pas nous laisser détourner du droit chemin et de laisser personne nous conduire sur une voie de garage. L'apôtre Paul aura le même souci. Lorsqu'il écrit aux chrétiens des églises, il dit « Ne soyez pas flottants et emportés à tout vent de doctrine » joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. L'image est celle d'un bateau ou d'un fétu de paille, emporté au gré des vents, juste ballotté ça et là de partout, selon l'orientation changeante des éléments extérieurs. Nous avons besoin de constance. Nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de solidité. Bien des choses peuvent nous emporter. Bien des choses pourraient vraiment nous emporter au gré de, même de parfois, ce à quoi nous sommes sensibles. Pour les uns, c'est la nouveauté qui fait partir au quart de tour. C'est tout neuf, on y va. Pour d'autres, c'est le sensationnel. Pour d'autres, c'est la radicalité. On veut quelque chose de pur, d'exigeant, qui demande plus que la moyenne. Et on pense que c'est cela qui est le vrai. Pour d'autres, c'est la recherche du grand frisson, de vous être saisi, remué, propulsé. Pour d'autres, au contraire, c'est le relativisme tranquille. J'ai besoin d'être bercé, surtout pas d'aspérité, de la douceur, rien que de la douceur. Et Jésus nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous de ceux qui joueraient sur ces registres pour faire de vous des proies dans un domaine ou dans un autre. Mais cela veut dire aussi, gardez-vous de vous-même pour ne pas adhérer à tout ce qui passe, pour ne pas vous offrir comme des brebis sans défense ou comme des auditeurs incapables de distance et de jugement. Gardez votre capacité d'analyse, d'évaluation, car c'est là ce que vous avez à faire, nous dit Jésus. Vous devez reconnaître Vous devez discerner le vrai, le faux, au-delà des apparences, au-delà de ce qui vous touche un peu plus, au-delà de ce qui vous emporterait plus particulièrement. Une vigilance, donc, et une responsabilité sur nous-mêmes. Jésus nous laisse entendre qu'il ne sera pas toujours facile de débusquer un pseudo-prophète, car ils se font dans le troupeau en vêtements de brebis. Il semble qu'il fait partie de l'ensemble, qu'il fait partie du groupe, qu'il est comme les autres. Il parle un langage familier. Il manifeste de belles intentions. Il revêt les habits de l'innocence et de l'intégration. Alors ici ou là, il dit des choses qui dérangent un peu, mais on est en confiance. Tout le reste est si bien, tout le reste est si beau. Jusqu'au jour où quelques dents apparaissent sous la mine inoffensive. On critique ce qui se croit. On critique ce fait comme si on venait de découvrir la nouveauté. On pinaille sur certains points de détail. On se positionne comme celui qui sait. On insiste sur certains sujets précis qui prennent une importance centrale, deviennent soudain des points de rupture essentiels sur lesquels on ne peut pas transiger. Et on se fait des adeptes, on crée des clivages, on se pose en meilleur interprète que tous les autres, en détenteur d'une vérité importante, en promoteur d'un engagement supérieur. Et les divisions se font, et des gens sont happés, acquis à la personne, partisans de la nouvelle cause, incapables de prendre du recul. Le loup a fait son œuvre, il a rapté à lui, il a déchiré le troupeau, il a désormais ses adeptes. Comment s'approcher de la vérité ? Par-delà les apparences qui peuvent être si trompeuses. Comment reconnaître finalement le vrai du faux ? Jésus, pour nous aider, change de comparaison et nous donne l'occasion de changer aussi notre regard. Il passe de la comparaison du loup qui était habillé en agneau à celle de l'arbre et de son fruit. C'est vrai que si dans certains cas, un loup habillé en agneau peut être pris pour un agneau, il n'en est pas de même pour un arbre. Aucun arbre ne peut cacher son identité. Tôt ou tard, l'identité réelle, l'identité profonde d'un arbre sera donnée. Elle sera donnée par son fruit. Le fruit dit ce qu'est un arbre. Un arbre ne peut pas cacher ce qu'il est par les fruits qu'il porte. Poire indique un poirier, les figues un figuier, etc. Aucun doute n'est possible. Le fruit dit aussi la qualité de l'arbre. Un bon arbre porte de bons fruits, Jésus le souligne. Un arbre malade, de mauvais fruits. Et Jésus nous dit, mais voilà le critère, mes amis. Voilà le critère, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il faut faire ce travail-là. Ce n'est donc pas le langage qui est décisif. Ce ne sont pas non plus les apparences qui sont décisives, mais c'est ce que produisent réellement les personnes. Il faut s'attacher à cela, dit Jésus, pour bien juger. Quels fruits se reflètent dans leur vie, dans leur conduite? Est-ce que ces personnes manifestent le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la bienveillance, la bonté, la paix? Ou est-ce que ces personnes manifestent des fruits de division, de tension, de jalousie, de volonté de s'approprier l'autre, d'affirmation de soi. Les personnes se mettent-elles au service de l'Évangile, au service des autres, au service de l'Église, au service de l'unité de l'Église, où leur position, leur enseignement sont-elles des moyens de s'affirmer elles-mêmes, de tirer avantage de leur situation? Fruit parle aussi de durée. Que peut-on dire de leur manière d'être sur le long terme? Que peut-on dire de leurs attitudes, non seulement à un moment précis, mais dans diverses circonstances, de leur enseignement dans les divers développements qu'ils ont pu prendre? En faisant la synthèse de tout ce qu'ils disent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit Jésus. Car lorsque Jésus parle de fruits, il vise aussi le contenu de ce qu'enseignent ces personnes. Il vise la conformité ou non de leurs propos par rapport à la parole de Dieu. Il s'agit d'examiner tout cela, et non seulement un point. Il s'agit d'examiner tout cela sur l'ensemble de ce que ces personnes apportent, et non seulement sur un moment, mais aussi sur la durée. Il est important ici de rappeler que ce n'est pas la prétention de parler de la part de Dieu qui accrédite quelqu'un, c'est la conformité à l'enseignement de la parole de Dieu et elle seule. L'Église est fondée, est bâtie sur le fondement de la parole de Dieu. Elle doit veiller à ce que ce fondement demeure. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit Jésus. C'est là la grille d'analyse qu'il faut avoir pour démêler la paille et le bon grain. C'est à leur comportement, à ce qu'ils manifestent ou non d'œuvre authentique de Dieu en eux. C'est à leur attitude, à leur soumission à l'Écriture, leur humilité, leur esprit de service, leur capacité à écouter aussi. C'est au contenu de ce qu'elles enseignent. Est-ce bien fondé sur la parole? Est-ce selon l'analogie de la foi, en accord avec l'ensemble de ce qu'enseigne la Bible? Est-ce équilibré et pas juste pointer un point particulier? Est-ce avec le souci d'annoncer tout le conseil de Dieu, l'ensemble de ce que Dieu dit, ou juste d'aller vers sa spécificité? C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez, à leur cohérence aussi, entre ce qui est dit et ce qui est fait et ce qu'ils font. Alors, motivation, est-ce qu'on se fait valoir soi-même ou est-ce qu'on a le souci du troupeau comme un berger qui ne cherche pas son intérêt, mais celui de ceux qui lui sont confiés? Certains tests aussi, plus particulièrement, peuvent être cruciaux, décisifs. Pour l'apôtre Jean, par exemple, toute personne qui porte atteinte à la personne du Christ et à son œuvre est menteur. Il le dit très clairement. Celui qui nie le Fils est menteur. Pour Paul, celui qui pinaille dans des discussions futiles qui font naître des querelles plutôt que d'avancer l'Évangile doit être évité. À plusieurs reprises, Paul parle de cela. Tout comme celui qui fait de l'Évangile une source d'enrichissement personnel, de gain éhonté. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Le succès est-il un fruit? Le succès d'une personne est-elle un fruit auquel on peut la reconnaître? Certains en font leur argument. Le nombre d'adeptes ne veut rien dire quant à la fidélité de ce que l'on enseigne ou quant à l'approbation de Dieu. Certains, on le sait, donnent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Paul met en garde contre cela. Dans 2 Timothée 4, 3, il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Les adeptes de ces choses-là, bien sûr, ne manifestent pas du tout que c'est selon Dieu. C'est la fidélité, la loyauté envers l'Évangile qui est le critère décisif et non le nombre d'adeptes ou de gens qui nous likent ou qui nous suivent. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits examinés dans leur ensemble, sur la durée, ne trompe pas. Ce que nous produisons, ce qui émane de nous dans l'ensemble de ce que nous sommes et sur la durée, dit ce que nous sommes en vérité. Mais c'est ici quand même qu'après avoir entendu ce que Jésus dit sur ces gens qui prétendent parler de la part de Dieu et qu'il s'agit d'évaluer, c'est ici que nous sommes invités quand même et que nous devons, me semble-t-il, retourner aussi le miroir vers nous-mêmes. La vérité d'une personne n'est pas dans les apparences, mais dans les fruits qu'elle porte, dans les fruits qu'elle produit. Et nous ne pouvons pas nous interroger à notre tour. Et moi, à quoi me reconnaît-on? Et moi, comment est-ce que je cherche à être reconnu? Il est facile pour chacun de nous aussi de veiller surtout aux apparences. Il est facile de veiller à ce que surtout, extérieurement, tout soit correct. De dire que ce qui compte, c'est que je donne une bonne image de moi. Je vais travailler du coup à préserver cette image, à ne laisser paraître que le meilleur, que le plus acceptable, adopter les bons comportements dans les bonnes situations. Et Jésus nous avertit ici. Et il nous dit, à travers de sa reprise des faux prophètes, ne confonds pas le vêtement dont tu t'habilles, comme ces loups qui peuvent se déguiser en agneau, ne confonds pas le vêtement dont tu t'habilles et le fruit qui dit ta vérité profonde. Ne confonds pas les deux. Ce n'est pas la même chose. Le fruit qui dit ta vérité, c'est ce que tu es sur l'ensemble de ta vie. C'est ce que tu es sur l'ensemble de tes actions, sur l'ensemble de tes réactions, dans l'ensemble de tes relations. C'est à ce fruit-là que tu dois travailler. C'est ce fruit-là qui est ton essentiel. C'est par ce fruit-là que tu seras reconnu, toi aussi, par le Seigneur, comme par les hommes. C'est ce fruit-là qui dit ton authenticité. Veille sur ce fruit-là. Veille sur ta réalité profonde. Veille sur les sources de ta vie. Veille sur l'ensemble de ta vie et pas juste sur sa partie visible ou sa partie sociale ou sa partie du dimanche. Veille sur la cohérence de ta vie et pas juste sur ta capacité à donner le change par tel ou tel discours bien rodé ou par telle ou telle action d'un moment ou telle compétence bien sectorisée. Mais aussi, si tu n'as pas les ressources de telle ou telle action d'éclat ou de telle ou telle tribune que d'autres ont, assure-toi, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans le fruit quotidien de ce que tu es, de ce que tu manifestes, dans chaque acte, y compris le plus humble de ton existence. Le fruit, c'est cela notre vérité. Ne confondons pas l'habit dont nous nous habillons, dont nous nous revêtons, et le fruit profond. Mais comment parler de fruit pour nous chrétiens sans évoquer l'œuvre que Dieu produit en nous par sa présence dans notre vie? Nous avons dit qu'il est Saint-Esprit agissant en nous, par l'amour qu'il répand dans nos cœurs, par l'action de sa parole qui veut nous transformer, par le renouvellement de son esprit qui habite en nous esprit de sainteté. Dieu a fait sa demeure en nous si nous lui ouvrons notre vie, si nous acceptons son pardon. Mais sa présence, son action vise notre transformation. Il veut produire en nous toutes sortes de bons fruits. Et connaître Dieu, c'est entrer dans une dynamique de renouvellement intérieur et extérieur, intérieur et extérieur. Dieu ne se contente pas non plus d'attendre ce fruit, mais il est présent, il agit en nous, il veut le produire, ce fruit, dans notre vie, nous en donner les ressources. Jésus a employé cette magnifique image du cep et des sarments pour dire cette conjonction. Parce que le sarment est attaché au cep, il peut tirer de ce cep toute la substance dont il a besoin pour produire justement un bon fruit. Et Jésus nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le mouvement va de lui vers nous. Les ressources sont données de lui vers nous. Il crée en nous le vouloir et le faire par son esprit. Ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit en nous-mêmes, dit l'apôtre Paul, mais notre capacité nous vient de Dieu. Il utilise aussi sa parole comme une semence pour planter en nous de nouvelles dispositions, de nouveaux objectifs de vie, de nouvelles ambitions. Il nous travaille par les circonstances que nous vivons, si nous les vivons avec lui, pour nous modeler comme un potier qui travaille l'argile et le modèle. Et tout cela pour nous remplir, et je cite encore l'apôtre Paul, du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la louange de Dieu. Tout cela pour que nous portions un fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes, dit encore l'apôtre Paul, en toutes sortes d'œuvres belles. Car un fruit, cela se traduit dans nos actions, dans nos comportements, dans nos choix, dans nos engagements. Et tout cela du côté de Dieu, avec un grand objectif et une grande espérance que Christ soit formé en nous, même si cela demande du travail, du temps, et comme le dit l'apôtre Paul encore, des douleurs, certaines douleurs de l'enfant. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit Jésus. Et nous, à quel fruit nous reconnaît-on? À quel fruit nous reconnaît-on? À quel fruit le Seigneur nous reconnaît-il, lui qui sait tout de nous? De quel fruit peut-il se réjouir? À quel fruit ceux qui nous entourent nous reconnaîtront-ils et pourront-ils bénéficier? Notre Dieu est un Dieu de vérité. Il veut que nous ayons au-delà des apparences jusqu'au réel. Il nous offre sa vérité comme appui, comme fondement. Et il s'est manifesté pour cela, à notre égard, en action et en vérité. En Jésus, il nous a donné du solide, du consistant pour fonder notre vie. Un amour entier, désintéressé, la preuve du don de soi jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. En Jésus, il s'est attesté aussi comme le Dieu fidèle à ses promesses, qui va jusqu'au bout de ses promesses, jusqu'au bout de son amour, jusqu'au bout de sa générosité, sans rien trahir de lui-même. En Jésus, mort et ressuscité, le salut qu'il nous offre a de la consistance, et l'espérance qui est nôtre, elle aussi, est solidement ancrée. Nous ne pouvons donc pas échanger cette vérité contre quoi que ce soit. Et il nous faut veiller à préserver cet évangile, à l'honorer, à le servir, à en faire la base entière de notre vie, à le confesser, cet évangile, à le recommander par toute notre conduite. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, gardez-vous de tout ce qui pourrait fragiliser ce fondement pour vous, de tout ce qui pourrait vous en écarter. Mais ce Dieu de vérité peut aussi nous préserver de la superficialité, des simples jeux de miroirs et d'apparence, des simples jeux d'images. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, disait le psalmiste. Il veut que son œuvre en nous ait de la profondeur et la consistance de fruits travaillés, de fruits mûris, produits par lui, mais pas sans nous, produits par nous, mais pas sans lui. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À quels fruits serons-nous reconnus aujourd'hui, demain, dans 2 ans, dans 10 ans. Ce que je demande, dit l'apôtre Paul, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables au jour de Jésus-Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, les versets 9 à 11. C'est le verset que j'ai reçu le jour de mon baptême. J'en ai besoin, moi le premier, que Dieu nous donne par sa grâce d'être reconnus chacun par les fruits qu'il produira dans nos vies. Amen.